Vous écoutez
RMC.
Et oui, elles sont là pour une page de l'âme courte, mais efficace. Paulo Breitner, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Julien Laurence, Paulo. Bonsoir.
Salut à tous.
Yoann Crochet, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Et Fred Herbel, bonsoir.
Yoann.
Hola, chicos.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Fredo.
Bonsoir, bonsoir.
Les gars, on y va rapidement. Il y a eu des matchs ce soir, hein, d'ailleurs. Renversement de situation en Espagne. Le Betis, qui était mené 2-0 par Alavés, gagne 3-2.
Remontada.
Mini remontada, en quelque sorte. Benfica gagne à Belenenses 3-0. West Ham bat Leeds 2-0. Chelsea a gagné face à Everton 2-0. On va y revenir. Et l'Inter bat l'Atalanta 1-0. On va y revenir. On démarre par l'Angleterre. Dis-nous tout ce qu'il faut savoir 24 heures plus tard du derby qui a vu la fin de série de City. Julien.
C'est ça la grosse nouvelle, c'est la fin de série effectivement de City, 21 victoires de suite, 28 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, jusqu'à hier effectivement. Un derby plutôt intéressant, j'ai trouvé, où United a très bien commencé en marquant un penalty de la deuxième minute après une faute après 37 secondes de jeu. Après ils ont très bien défendu, l'état d'esprit était parfait, tactiquement après c'est toujours plus facile de défendre que d'attaquer dans un match de foot, mais c'est vrai qu'ils l'ont très bien fait et ils ont marqué un deuxième but en contre où Luke Shaw s'est transformé en Roberto Carlos et c'était assez beau à voir. Et puis voilà, City
a montré quelques limites. United pouvait gagner de toute façon.
C'est ça, effectivement. Mais City a montré des limites.
Le but ou l'erreur d'entrée, on se referme et on met le deuxième en contre et au revoir tout le monde.
Voilà, c'est ça. Même s'ils ont quand même bien défendu, ils ont été agressifs quand il fallait. Leur pressing a plutôt bien marché.
Oui,
ils n'ont pas toujours joué trop bas non plus.
Ils défendent pas bien dans un match pareil, Julien. Après, c'est du foot ultra minimaliste, quoi.
Ouais, c'est que Martial a une balle de 3-0. Martial a deux balles de 3-0 aussi. Tu peux le voir dans un autre sens. Et puis City a eu beaucoup le ballon, mais sans vraiment être trop dangereux non plus.
Mais Julien, ça c'est toujours la même histoire. City, quand il gagne 21 matchs, c'est extraordinaire. Et City, quand il bute contre une équipe qui arrive à parfaitement bien défendre, on dit, ils ont pas été inspirés. Oui, mais c'est normal. À partir du moment où l'équipe, elle se met en bloc de cette façon, qu'elle refuse à ce point le jeu, souvent, on dit que City tourne en rond, comme toutes les équipes qui tournent en rond quand il y a des blocs aussi, aussi puissants que ça. Et surtout, plus le temps passe et plus le scénario du match fait qu'ils aient marqué immédiatement et que derrière, ils se sont refermés. Voilà. Mais est-ce que tu dois tirer
Il y a 28 équipes avant. Non, mais il y a 28 équipes avant qui n'ont pas réussi à faire ce que Manchester United a fait. Ouais. Donc, à un moment, ils méritent quand même qu'on les applaudisse en disant.
Moi, j'applaudis pas ce genre de football-là, moi, jamais, moi. Donc, moi, ça m'intéresse
jamais.
Pas.
Non, mais après, dommage.
C'est dommage.
Daniel. C'est dommage.
Il y a plusieurs.
C'est pas du tout ça. Il y a pas l'Atlético Madrid avec une défense à 6.
Non, mais moi, j'applaudis Bayern Dortmund. Il y a 4-2, mais les deux équipes ont bien joué. Même le moins fort a essayé de jouer contre le plus fort. J'applaudis Atlético Real, même si Atlético a mal terminé la rencontre. Parce que Simone a fait l'idiot, ses vieux schémas à la con, alors qu'il domine l'essentiel du match. Là, j'applaudis, mais là, Manchester United, j'applaudis pas ça.
En fait, ce que veut dire Julien, il a raison, Daniel. De toute façon, que t'aimes plus une façon de jouer qu'une autre, ça, ok, on a compris. Après,
oui,
c'est vrai.
En même temps, j'ai quand même cité déjà deux matchs et quatre équipes.
Oui, mais sauf
je pense que l'essentiel du football aujourd'hui ne se joue pas comme l'a fait Manchester
non,
United.
Non, c'est vrai, t'as raison.
C'est une minorité.
Sauf que, regarde, sauf que le Bayern, pour parler du match Bayern-Dortmund, ce qui était un super match, en effet, aujourd'hui, le plus fort a gagné. Dans tous les cas. Mais
le plus petit a essayé.
Non, mais ils auraient pu essayer avec une autre stratégie. Peut-être la stratégie.
Mais si c'est pas la stratégie que tu développes tout au long de l'année.
Non, mais
ça va être compliqué de demander aux joueurs.
On a déjà passé le temps
toute la saison, essaye de développer quelque chose. Ils font. Tiens, sur ce match-là, les gars, vous allez faire. D'abord, ils ont peut-être. Dortmund n'a pas les joueurs pour faire ça. Le projet du club n'est pas monté pour faire ça.
Non, mais.
Et Manchester United, à la base, c'est pas un club.
Sur un match, c'est pas bien grave.
Mais sur un match,
allez,
en fait,
les gars, parce que sinon on n'a pas le temps de parler.
Manchester United,
Daniel, s'il te plaît.
De toute façon, c'est pas se transformer en grand chose puisque ils ont pas réellement d'identité.
Fred, infos du Barça à 48 heures du match. La polémique du jour, c'est les banderoles des supporters parisiens. Vous avez vu, il y en a certaines un peu provoques, voire très provoques.
Totalement lamentable. On a le droit de le dire.
Eh ben, excusez-moi, mais j'ai pas vu de quoi parler.
Oui, il y a une banderole qui dit.
En gros, ils ont traité la femme de Piqué de pute, voilà.
Ah, d'accord. Franchement, je ne le savais pas.
Une banderole qui dit Shakira, la Jonquera. Voilà, dans les rues de Paris.
Mais parmi les supporters parisiens, j'en sais quelque chose. Il y en a qui aiment bien insulter les femmes.
Je précise que la façon dont Daniel le dit, c'est à peu près de la confusion. C'est que Daniel reçoit régulièrement des insultes.
C'est pour ça. Il fait allusion à sa vie.
Évidemment.
Malheureusement, vers sa campagne, qui est totalement malheureux, évidemment. Alors, au Barça, qu'est-ce que tu peux nous dire à 48 heures du match, Fred?
Ça y est, le mot a été lâché, le mot interdit.
Ah, le par la Porta.
Ce soir, ça commence. Mais pas doucement.
En même temps, ils auraient tort de se priver.
Du bout des lèvres.
Bah oui.
Du bout des lèvres. C'est-à-dire que, pas de la part du club, hein, où là, personne ne parle de ça, les joueurs non plus, etc. Mais la presse catalane, qui normalement aurait dû parler de remontada il y a 3 semaines déjà, s'il y avait. Voilà, là, elle commence que ce soir, et le match, c'est mercredi. On emploie tout doucement, à l'image du journal Mundo Deportivo, qui dit les 10 raisons pour croire à la possible remontada. En une espèce de décalogue avec ils essayent de trouver quelques espoirs, mais en grattant beaucoup. Remontada en coupe, remontada en Liga, en Ligue des Champions, point d'intégration, d'e-sport. Voilà, c'est vraiment la première fois que cette question est évoquée aussi clairement, même si j'insiste, c'est du bout des lèvres. Il n'y aura pas Piqué, a priori, il est blessé. Bon, c'est pas une grosse perte, hein, vu ce qu'il a montré ces derniers temps. La question d'Araujo, on va voir s'il pourra revenir, mais on se dirige sûrement vers une charnière centrale, Mingesa, l'anglais qui a fait un très bon match ce week-end. Voilà, et le Barça qui commence à s'installer avec, il faut dire, un nouveau président qui fait un retour, on l'a vu, brillant, et qui commence à choisir ses hommes, et on sent que c'est du sérieux. Il va nommer comme directeur général, directeur du foot, on n'a pas encore le libellé exact de son poste, l'un de ceux qui connaît le mieux le foot, l'un des meilleurs dirigeants du foot en Espagne, celui qui était le directeur général de Valence et qui s'est fait virer par le propriétaire Peter Lim de Singapour parce qu'il faisait bien son boulot, qui était un très bon président de Majorque. Voilà, Matteo Alemany va être l'employé numéro un de cette équipe, le dirigeant numéro un derrière le président de ce Barça. Ça montre déjà une certaine intelligence, c'est-à-dire que il était peut-être très populiste dans sa campagne, dans son discours, la Porta, mais là il est en train de s'entourer de gens très sérieux pour essayer de renaître ce club d'un point de vue financier.
Ok, bien sûr, demain on aura d'autres infos à 24 heures du match. Polo, raconte-nous ce qu'il faut savoir du fantastique match du Bayern ce week-end.
Alors oui, tu l'as dit, moi je trouve que c'est fantastique match du Bayern, qui encore une fois est mené à 2-0. C'est la 13e fois depuis le début de la saison en Bundesliga.
Ça t'agace, hein, ça, Polo, hein.
Non, mais c'est pas moi, mais je me mets à la place des joueurs. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression, mais on a presque l'impression qu'ils le font exprès. Et Thomas Müller, lui, a montré après la conférence de presse, c'est-à-dire que c'est un, que c'était toujours le boss, et deux, qu'ils le font pas exprès. Ça les énerve aussi, eux. Mais ce qui est fabuleux dans ce Bayern-là, c'est que jamais ils ne s'énervent. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé la rencontre avec quelqu'un, et je lui dis, mais t'inquiète pas, le Bayern va revenir à 2-1 avant la mi-temps, tu vas voir qu'ils vont faire le job. Ils sont même pas revenus à 2-1, ils sont revenus à 2-2. Après, c'est autre chose, parce que la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Le Bayern est largement au-dessus, et cette équipe est monstrueuse.
Même d'ailleurs, s'il y a des espaces pour les mecs de Dortmund qui n'arrivent pas à en profiter, parce que les mecs derrière, moi, j'entends qu'on critique beaucoup la défense du Bayern, mais enfin, c'est des tels blocos que t'as derrière, faut les contourner quand même.
Moi c'est ça qui m'impressionne. En fait, évidemment, on parle beaucoup en Allemagne.
Il joue arrière droit, t'imagines le gabarit qu'il a pour un latéral.
Et d'ailleurs, il est pas si mauvais que ça.
Il fait des sorties avec le ballon. Ouais. Tous ceux qui disaient c'est un bourrin et tout, honnêtement, c'est pas un bourrin, les gars.
Alors évidemment, en Allemagne, on parle beaucoup.
C'est un peu clichéton quand même.
Pardon?
Ouais, alors franchement, j'ai pas voulu faire ce lien-là parce que c'était blocos en général.
C'est venu comme ça.
Qu'est-ce que je veux dire? En Allemagne, évidemment, on parle beaucoup, encore une fois, du triplé de Lewandowski et celui, le doublé d'Haaland, évidemment, si tu veux, il passe un petit peu de côté. C'est-à-dire que Haaland, très bien, lui, il marque un but et Lewandowski lui répond systématiquement. Alors, je voudrais pas dire qu'il en est à 31 buts en Bundesliga, Lewandowski, et qu'il approche le Gerd Müller 71-72 et ses fameux 40 buts, mais surtout, Lewandowski à un but de Klaus Fischer pour être le second plus grand buteur de la Bundesliga. Et à un rythme où il va, je pense que le record, et comme il est en pleine forme physique, le record de Gerd Müller et ses 365 buts, ils sont peut-être un jour en ligne de mire, même si. Alors par contre, 30 secondes pour le match.
Polo, on a le droit de prononcer le nom de Klaus Fischer comme ça impunément et ça passe.
Moi, j'adore Klaus Fischer en plus. Donc.
Et tu penses qu'on n'est pas obligé de penser au retourner à chaque fois que tu dis ce nom-là comme ça.
Là, on peut parler à la nuit de Séville.
Mais oui.
Non, mais évidemment, le problème.
Yannick Fischer.
Évidemment, le problème. Le problème, c'est que Klaus Fischer, son retourné, c'était sa spécialité. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression que c'est le but de sa vie. Or, en fait, il a été plusieurs fois meilleur.
Oui, c'est un peu le but d'une vie pour nous.
Klaus Fischer, c'était un grand spécialiste des retournées. Donc, de toute façon.
Mais
c'était pas le plus beau. C'était pas le plus beau.
Tu voulais parler de quoi en 30 secondes, là?
Oui, en 30 secondes. Alors, demain, rappelez-vous, il y a quand même un match contre Séville qui est pas neutre.
Bien sûr.
Sancho et Hout. Alors là, c'est le gros problème de Dortmund. C'est-à-dire qu'on y croit en Allemagne, évidemment. On vient de passer une période très spéciale avec la victoire évidemment contre Mönchengladbach en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Il y a la défaite évidemment qu'on attendait contre le Bayern et il y a un petit peu cette finale de cette semaine contre Séville. Le problème, Sancho est blessé, Guerrero et Reina n'ont pas fait le dernier entraînement, ils sont très très douteux.
Qu'est-ce
pour demain.
Qu'est-ce qu'il y a comme blessé à Dortmund quand même?
Donc je pense qu'ils vont jouer en 4-3-3. Même Hollande a un problème, il y a des légères lésions musculaires, mais il joue avec des douleurs. Mais ça va, mais comme c'est un robot, ça va. Et Thorgan Hazard a fait un entraînement extrêmement réduit. Je pense qu'ils vont jouer en 4-3-3 demain. Rappelons quand même que Séville doit marquer 2 buts pour se qualifier, voire plus en fait.
Et dis-moi, Polo, qu'est-ce qu'il se dit rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi les appréciations sur Marco Reus en Allemagne?
Si tu veux faire son avocat, il a toujours été blessé longtemps dans sa carrière. Il a que 44 sélections de mémoire avec la sélection allemande, ce qui est pas normal vu son talent. Le problème, si tu veux, c'est que c'est pas un leader. C'est-à-dire que lui, le gars, on l'attendait comme celui, comme Mats Hummels, qui devait.
Il est de la génération des petits garçons.
C'est exactement ça. Sauf que lui, il est passé à côté.
Il en a fait un peu plus.
Allez, on enchaîne. L'Inter enchaîne à son tour face à l'Atalanta. C'était quand même un match de haut de tableau entre clubs qui luttent pour la Ligue des Champions.
Regardez un peu là.
Johan.
Cadré suite à un cafouillage, un but pour l'Inter. C'est un peu le bilan du soir. Et comme je vous disais la semaine passée, le chemin choisi par Conte, c'est celui-là depuis quelques semaines. Il est très clair. C'est le résultat au-dessus de tout, un bloc bas, beaucoup de contre-attaques. Et si à la fin de la saison, il y a Scudetto, pour beaucoup en Italie, Antonio Conte aura eu raison. Et on a le droit de constater ça. Je suis pas forcément de cet avis-là. Et on verra la semaine prochaine,
Johan, parce que ça nous ramène au débat.
En Ligue des Champions, mais.
Ça dépend, Johan, parce que c'est toujours une histoire de contexte. Et l'Inter, ça fait maintenant longtemps.
Oui, bien sûr.
Ils n'ont pas été champions. Ça me rappelle quand le Real, dans un moment critique, avait fait appel à Capello pour être champion à nouveau.
Et qui
à la fin a dit maintenant.
Attends, des champions, maintenant
ici,
on va faire avoir.
Ici au Real, on n'aime pas trop ça. Ouais. Donc on t'a pris parce qu'il fallait.
Oui, bien sûr. Après, on peut avoir aussi.
Et tu sais très bien comment ça se passe avec Conte. Il a été champion là. Si jamais il est encore de cette façon là l'année prochaine, après, au bout d'un moment, on dira bon, écoute, ça a fini par nous saouler un peu ton affaire.
Ouais. Mais après, on peut aussi. Moi, je suis très exigeant.
Mais là, ils ont envie d'être champions.
J'attends beaucoup plus.
Ils ont envie.
Et si à Scudetto, on répondra évidemment qu'il y a eu titre au bout et qu'il aurait eu raison. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Non.
Et on peut avoir une sensibilité un petit peu différente sur ce que propose l'Inter de manière globale depuis quelques semaines.
J'ai la même sensibilité, mais je peux comprendre que quand ça fait des années pour un club important, on se dise bon, écoute,
faut gagner.
S'il peut nous le faire de cette façon, qu'il le fasse comme ça.
Et d'autant que j'aimais beaucoup ce que faisait Antonio Conte et l'Inter en début de saison, où il y avait une autre approche, mais ça n'a pas duré parce qu'il en c'est trop de buts à son goût et qu'il a décidé de changer. Côté Atalanta quand même,
Le Final 8, j'aimais bien même ce qu'il faisait.
Ouais, Johan, vas-y.
Pour illustrer un peu la différence de Conte, entre Conte et Gasperini en ce moment, Gasperini a dit à la fin du match, je rejouerai ce match 100 fois de la même manière, l'Inter a gagné, mais on ne rentre pas à Bergame sans moins de conviction sur notre manière de jouer. Et il a répété, c'est l'année de l'Inter et ça se voit, et je suis tout à fait d'accord avec lui. On dit une victoire de champion ce soir et c'est ce qui s'est passé clairement.
Absolument.
Un petit mot sur Juve Porto ou on a le temps sur Juve Porto?
Il
y a une bonne news, oui, vas-y.
Alors il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont pas à 100%. De Ligt, Chiellini, Bonucci, McKennie, Arthur, Morata, ça fait beaucoup.
Ah oui.
Danilo est suspendu, sachant que c'est un des meilleurs de la Juve cette saison. On s'oriente vers une compo avec Bonucci et Chiellini dans l'axe. Alors moi je suis un peu étonné parce que si on a Bonucci, Chiellini, Alexandro dans la défense à 3, je vois des joueurs qui sont un peu en difficulté à certains postes. Donc on verra demain soir, mais Pirlo et Bonucci ont prévenu et l'ont répété en conférence de presse, Ronaldo est chargé à bloc. Et je pense que c'est Je vais pas dire que c'est la seule solution demain soir de la Juve, mais on l'a vu contre l'Ajax, on l'a vu contre l'OL, on l'a vu contre l'Atlético. À chaque fois que la Juve a besoin de Ronaldo, lui répond présent. Le problème, c'est que pour passer, il faut que d'autres joueurs répondent présents à leur tour.
Pour aller plus loin, surtout. Parce exactement. Que passer Porto, ça semble être la base pour la Juve.
Oui, mais passer l'Ajax et l'OL, c'était la base aussi.
Mahrez pourrait aller au Real l'an prochain.
Le super but de Rabiot, là.
Les gars.
Bah, on peut, Julien, hein, si tu veux. Hein.
Julien, tu confirmes cette info que le Real s'intéresse à Riyad Mahrez?
Non, je sais pas du tout. Enfin, j'ai vu effectivement l'information.
Demande à Fred, directeur sportif.
Mais il reste 2 ans et demi de contrat.
Ça me paraît.
Je vois pas comment. Quel argent et comment. Surtout, hein.
Très bien. Tu confirmes pas, toi, Fred.
Par ailleurs.
Je ne confirme pas du tout. Je sais même pas d'où ça vient. Oh. Enfin, j'ai entendu parler, mais je sais pas quel média on a parlé.
Bah, RMC Sport.
C'est un mec qui a pas.
C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est un bon média.
C'est un bon média.
Messieurs, on vous retrouve toute la semaine pour la Ligue des Champions et pour la Coupe d'Europe, bien sûr.
Ouais, j'ai 2 remontadas cette semaine.
Alors soyez bon.
Bon courage.
Soyez bon.
Et puis évidemment, tiens, je voulais vous parler du tournoi de ping-pong ce soir.
Ah ouais.
C'est anecdotique, on le fera demain. Mais allez sur les réseaux sociaux de l'After, vous aurez toutes les infos. Le choc Macardy-Hermel, ça peut être du haut niveau.
Retransmis à 9h30 le matin, samedi matin.
En tout cas, je remercie. Et vous allez pouvoir parier sur les matchs et donc gagner des cadeaux. Et on a même eu des propositions. On a un kiné qui s'est proposé pour être kiné du tournoi, il s'appelle Clément. Et on a même un photographe qui s'est proposé, il s'appelle Grégoire. Donc les gars, vous en faites pas, on s'occupe de vos dossiers là. Allez. On vous répond très vite. Salut, demain soir, merci, on sera là dès la fin des matchs de Ligue des Champions. Et n'oubliez pas afterfoot.media également pour toutes les infos sur la revue de l'After. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.